France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives. Juan Carlos, tout contre Franco. Épisode 1, les deux pères de Juan Carlos. J'ai longuement hésité à commencer par là. Après tout, ce coup de pistolet, parti en fin de journée dans une maison de la côte portugaise, est peut-être moins important que ce qui s'est passé ensuite. Moins important que la décision qui a changé le destin du peuple espagnol tout entier, quand Juan Carlos a décidé de rétablir la démocratie en Espagne, quand ce nouveau roi a choisi de rendre leur voix à ses compatriotes, après 36 ans de dictature, plutôt que de tenter de perpétuer, sous une autre forme, un pouvoir arbitraire. Malgré tout, le coup de feu a bien eu lieu, et il ne peut pas être oublié, encore moins de Juan Carlos lui-même. Car ce qui s'est passé ce jour-là a probablement influencé profondément ce qui est arrivé par la suite. Seul Juan Carlos connaît véritablement le déroulement des faits le 29 mars 1956, dans la salle de jeu de la grande maison familiale d'Estoril, cette cité balnéaire voisine de Lisbonne. Le prince était alors âgé de 18 ans. Quelques jours plus tôt, il était revenu d'Espagne en train avec son frère de 4 ans, son cadet, Alfonso, par le Lusitania Express pour passer les vacances de Pâques à Estoril. C'est dans cette ville que vivait depuis 1946 la famille royale espagnole en exil, dans une grande villa blanche nommée la Giralda. Ce matin-là, les monarques s'étaient rendus à l'office du Jeudi Saint. Puis le jeune Alfonso avait participé à une compétition de golf. Un peu après 20h, leur mère, Maria de las Mercedes, entend Juan Carlos descendre l'escalier en courant. Elle entend aussi qu'il dit à la femme de chambre que c'est à lui et à personne d'autre d'annoncer ce qui vient de se passer. Dans un souffle, voilà l'adolescent devant ses parents qui leur dit ce qui vient d'arriver. Le comte de Barcelone, père des deux garçons, se précipite alors dans la salle de jeu. Il découvre son plus jeune fils étendu par terre et la mare de sang qui s'agrandit autour de lui sur le sol. Le lendemain, à l'initiative de Franco, dictateur au pouvoir en Espagne depuis des décennies, l'ambassade d'Espagne au Portugal publie un communiqué qui dit ceci « Alors que son Altesse l'infant Alfonso nettoyait un revolver avec son frère, un coup est parti qui le toucha au front et le tua en quelques minutes. » Voilà pour la version officielle. Juan Carlos était revenu d'Espagne avec ce pistolet dont on a dit qu'il lui avait été offert par Franco lui-même. Erreur, a allégué plus tard le prince, l'arme lui aurait été donnée par l'un de ses amis lieutenants. Selon les versions successives, le coup serait parti au moment où Alfonso aurait ouvert la porte brusquement, bousculant son frère qui se trouvait derrière et provoquant le coup de feu. Dans ses mémoires, Juan Carlos écrit que la balle a ricoché sur un mur avant d'atteindre le front d'Alfonso. L'ancien roi d'Espagne affirme également qu'il ne savait pas que le revolver était chargé. L'arme, quant à elle, n'a jamais été retrouvée et aucune enquête n'a été diligentée. Il semblerait que ce pistolet repose toujours au fond du Tage, à l'embouchure du fleuve qui s'ouvre au pied d'Estoril. Là encore, selon les versions, c'est soit Juan Carlos lui-même, soit son père, Don Juan, qui a envoyé le revolver par le fond. On ne connaîtra donc jamais avec certitude la vérité sur ce qui s'est passé à la Giralda ce soir-là. En revanche, on peut savoir ce dont cet événement est la métaphore, ce qu'il permet de comprendre ou plutôt d'approcher. Pour moi, il est en effet le révélateur de cette atmosphère assez sombre qui entoure le destin de la famille royale espagnole. Une atmosphère empreinte de gravité et de désillusion. Gravité, c'est d'ailleurs le mot employé par Juan Carlos dans ses mémoires pour décrire l'état qui ne l'a plus quitté, dit-il, suite à la mort de son frère. L'atmosphère dans cette famille n'est jamais bien éloignée de la tragédie. Cette atmosphère où les armes peuvent tout à coup se mettre à parler et où une violence rentrée peut se libérer à tout moment. Il faut ici en effet rappeler quelques faits. Le grand-père de Juan Carlos a échappé à pas moins de 47 attentats. Franco, dont on va voir dans cette série quels sont ses liens de proximité avec Juan Carlos, a fait assassiner environ 150 000 opposants durant sa dictature. Juan Carlos, lui, a eu à faire face à un coup d'État qui a vu des militaires tirer dans l'enceinte même des Cortes, le Parlement espagnol. Et puis, si l'on veut remonter jusque-là, ses ancêtres Louis XVI et Marie-Antoinette ont tout de même vu leur tête tomber au fond d'un panier. Oui, il paraît qu'on ne meurt pas tout de suite quand on a la tête tranchée. On peut donc dire que si Juan Carlos et son frère ont joué avec une arme ce jour-là, c'est parce que les armes et la violence faisaient partie de leur vie, de façon proche ou plus lointaine. Les coups de feu, les trahisons, les grands dilemmes devant l'histoire ont été le lot de cette famille et Juan Carlos est l'héritier de cette histoire-là. Comme il l'a souvent dit, il est né prince pour le meilleur et pour le pire.
Vous ne regrettez pas enfin de ne pas avoir été un jeune homme comme les autres ?
Non, parce que je suis né prince. Ça a été moi et d'une autre façon, ça aurait été peut-être vous, je ne sais pas, c'est une question... Dieu qui a fait la famille, alors on vient un après l'autre.
C'est le destin, quoi.
Oui.
Naître monarque, c'est profiter de grands pouvoirs et de grands privilèges, mais ça n'est pas naître libre. Dès lors, la question qui se pose au sujet de Juan Carlos me semble être celle-ci. Comment cet homme a-t-il utilisé les marges de manœuvre qui se sont présentées à lui dans sa vie ? Quel usage a-t-il fait du pouvoir qui lui a été en partie conféré, mais qu'il a aussi su prendre par lui-même ? A-t-il su faire les bons choix, notamment dans sa relation à Franco ? Et pourquoi a-t-il abusé de son pouvoir et de sa position, comme l'ont révélé les scandales à la fin de son règne ? C'est ce que nous allons nous demander tout au long de cette série en 6 épisodes.
Juan Carlos, tout contre Franco. Une série de Mathieu Garrigou-Lagrange réalisée par Nathalie Salle, attachée de production, Lily Corner.
Laurence Debré, vous êtes spécialiste de la monarchie espagnole et de Juan Carlos en particulier, que vous connaissez personnellement depuis longtemps. Vous avez notamment publié chez Perrin sa biographie, mais aussi l'ouvrage « Mon roi déchu » chez Stock. Et enfin, vous avez largement collaboré à l'écriture de ses mémoires parus en 2025. Laurence Debré, pour commencer, à quel point diriez-vous que les circonstances de la mort de son frère ont pu influencer ensuite la vie et les décisions de Juan Carlos une fois roi ?
Je pense que c'est un drame déterminant qui l'a évidemment marqué à vie. Cette espèce de gravité, peut-être qu'avant il était ce jeune prince à l'avenir incertain à l'époque, parce que son père était juste le détenteur des droits dynastiques, mais enfin Franco régnait sur l'Espagne. Et il est rentré dans l'âge adulte brutalement avec ce drame. Cette culpabilité aussi vis-à-vis de sa famille. Et en même temps, toute sa vie durant, je crois que son petit frère l'a accompagné. Enfin, c'est ce qu'il a voulu me dire. C'est une présence-absence permanente encore aujourd'hui. Il y a des photos de lui partout. Et je pense qu'intérieurement, il a ce dialogue avec ce petit frère qui était peut-être, on dit, plus enjoué que lui. Il lui dit qu'il était beaucoup plus doué que lui, notamment en golf d'ailleurs, comme vous en parliez. Voilà, mais depuis lors, il est seul. En fait, c'est un homme avec sa solitude, Juan Carlos.
C'est ça qui caractérise sa personnalité, ouais, ou en tout cas son état d'être en ce moment.
Les Espagnols ont une vision de lui d'un homme charismatique, très chaleureux, très affectueux, très expansif. Et je pense que c'est l'image publique qu'il veut donner. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, comme le prouve son exil volontaire à Abu Dhabi, finalement, c'est un homme très seul.
On ne va pas revenir sur les circonstances de la mort d'Alfonso et cette balle qui est tout de même partie du revolver de son frère. Est-ce que vous avez une intime conviction sur ce qui s'est passé ce jour-là ?
Aucune. En fait, c'est la première fois que le roi parle de cet accident publiquement. Donc, ce qu'il m'a confié, c'est ce qui est dans le livre. Hein. Il est avare de mots en règle générale, mais sur ce sujet-là en particulier. Et c'est sa version des faits. Après, on ne peut pas le...
Il n'y a pas eu d'enquête, donc il n'y a pas de version non plus...
Officielle, exactement, oui.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'atmosphère familiale dans laquelle a grandi Juan Carlos ?
Alors, il parle d'une famille chaleureuse et très unie, puisque vivant en exil, et avec aussi un réseau très soudé de cousins dans toute l'Europe. Voilà, mais je crois que de ce que je comprends, de ce qu'il m'a dit ou ses amis m'ont dit, Don Juan, son père, est quelqu'un qui a un charisme, une grande autorité, qui est assez dur. La couronne passe avant tout. Donc, Juan Carlos a été élevé comme ça. Je crois que sa mère était très affectueuse, chaleureuse, et surtout sa grand-mère, c'est-à-dire la mère de son père, la grand-mère paternelle, qui est la petite fille de l'impératrice Victoria du Royaume-Uni et qui l'a beaucoup choyé quand il était petit, quand il était en Suisse et qu'elle résidait à Lausanne.
Donc pour vous, une atmosphère finalement de famille normale et affectueuse?
Oui, mais très unie par l'exil, par cette espèce de précarité en fait de statut et très aidée par un réseau de cousins européens.
Donc, à l'âge de 4 ans, en 1942, Juan Carlos se voit assigner un précepteur, Eugenio Vegas Latapié, qui est un intellectuel ultra-conservateur pour qui la démocratie équivaut au bolchevisme. Ça signifie qu'il grandit dans un environnement qu'on peut qualifier à la fois de réactionnaire et de religieux. Ces mots conviennent?
Alors, religieux, certainement. Très, très catholique.
Très et
lui-même est très croyant. Dans un milieu conservateur, certainement, mais...
Réactionnaire, j'ai dit.
Alors, réactionnaire, je ne sais pas, parce que le contexte de guerre civile est compliqué. On est quand même entre une guerre civile espagnole et la Deuxième Guerre mondiale. En tout cas, il n'est pas fasciste. Et je pense que l'influence britannique au sein de sa famille est beaucoup plus déterminante qu'on ne le pense. Souvent, il me dit « on m'a mis la démocratie dans le biberon ». Le modèle absolu pour eux, c'est quand même la monarchie britannique, constitutionnelle britannique.
Alors, est-ce que vous diriez que Juan Carlos a eu avec son père une relation privilégiée, une relation de proximité? Vous dites aussi que c'était Don Juan, le père, quelqu'un de très dur.
Ouais.
Comment est-ce que vous pourriez qualifier les relations entre le père et le fils?
C'est quand même... c'est des rois. C'est des relations entre rois. C'est pas une relation simple de père et fils. L'enjeu est bien plus grand. Il y a en tout cas de la part de Juan Carlos aujourd'hui, quand il parle de son père, une reconnaissance infinie. Il lui a fait un enterrement de roi alors qu'il n'a jamais été roi, mais dans l'imaginaire de Juan Carlos, son père a toutes les qualités d'un grand roi parce qu'il a sacrifié sa vie pour la couronne. Et je pense que ça prévaut.
Le côté institutionnel prévaut presque sur
le côté personnel, père-fils, d'un père très exigeant avec son fils qui n'hésite pas à l'envoyer en Espagne à l'âge de 10 ans pour servir les biens de la couronne.
Juan Carlos est né à Rome le 5 janvier 1938. La famille royale est en exil depuis l'avènement de la République en 1931. En 1946, le père de Juan Carlos, Don Juan, comte de Barcelone, décide de s'installer sur la Riviera portugaise, le long de cette côte qui va de Lisbonne à Caix-Caix. Ce choix ne doit rien au hasard. Il s'agit d'abord pour lui de se rapprocher de l'Espagne, en rentrant sur la péninsule ibérique après avoir vécu en Italie et en Suisse. Et puis, dans ce pays extrêmement pauvre qu'est le Portugal de l'époque, cette côte est une enclave de richesses, de fêtes et de frivolités.
Au Portugal, à Estoril, Maurice Chevalier a été couronné roi du carnaval. Il a conduit la cavalcade, mais il a pris froid. Il avait hier 39,5 degrés, mais ce matin il est guéri et il présidera les fêtes de demain.
Dans ce triangle d'or que constituent les villes de Caix-Caix, Estoril et Sintra, on tombe régulièrement sur des têtes couronnées dans les salons du casino ou les boudoirs des grands hôtels. Le cinéaste Orson Welles, qui séjourne en 1946 à l'hôtel Palacio, rapporte en avoir croisé trois en seulement quelques minutes, Don Juan, le comte de Paris et le roi Humbert d'Italie, tous trois formant ce qu'on appelle alors là-bas la corporation des princes. À Estoril, Caix-Caix et Sintra, entre les palais des grandes fortunes portugaises et l'aristocratie européenne qui s'y rend depuis le 19e siècle, on fait du bateau, du golf et on se marie en grande pompe.
40 000 assistants et plus de 2 000 invités venus de tous les pays d'Europe, mais spécialement d'Italie, ont assisté au mariage de la princesse Maria Pia de Savoie, que conduisait son père, l'ex-roi Umberto, à la petite église portugaise de Cascais, devenue la résidence de l'ex-souverain. Toutes les familles royales se retrouvaient dans cette église, qui fut celle d'un village de pêcheurs. Grands noms d'hier, parmi lesquels on citera celui du comte de Paris, qui est, comme on le sait, l'héritier des rois de France. La princesse Maria Pia épouse le prince Alexandre de Yougoslavie.
Laurence Debray, en 1946, quand la famille royale espagnole s'installe à Estoril, est-ce que le père de Juan Carlos pense qu'il va y faire sa vie, comme ce sera le cas, ou est-ce qu'il pense que la situation est temporaire ?
Alors, il s'installe au Portugal pour se rapprocher de l'Espagne, mais évidemment, pour lui, c'est temporaire. Il s'imagine que, compte tenu de l'axe du bien et du mal à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, Franco, qui s'était rallié sans participer activement, mais enfin bon, de fait, idéologiquement, il était quand même plus proche d'un Mussolini et d'un Hitler que des alliés. Donc, il s'imagine que les Américains vont le soutenir et vont le ramener sur le trône espagnol. Il n'a pas anticipé le début de la guerre froide et du rideau de fer.
On pense à ce moment-là que Franco sera jeté dehors, mais ouais. Franco est un allié pour les États-Unis contre le communisme, qui est toujours une possibilité qui fait peur aux Américains en Europe.
Oui, donc Juan se retrouve totalement sur la touche. Donc Juan s'imaginait qu'il allait être à la tête d'un pays qu'il allait réconcilier. Il avait même publiquement dit qu'il intégrerait les communistes à son gouvernement. Il se retrouve au Portugal en exil, en voyant donc l'ennemi, son grand ennemi, Franco, régner sur son pays. Tout les oppose, idéologiquement certainement, mais aussi personnellement, sur le plan plus personnel, même si il faut reconnaître, et j'étais quand même assez surprise que Juan Carlos le narre dans ses mémoires, pour lui, Franco a toujours été monarchiste. Il y a quand même une espèce de fidélité de Franco, ou en tout cas de respect envers la monarchie.
En 1946, Don Juan, comte de Barcelone, espère donc que le momentum lui est favorable pour revenir au pouvoir. Hitler et Mussolini sont tombés, et beaucoup espèrent qu'il en sera de même pour le dictateur espagnol. Il attend donc une erreur de la part de Franco, une brèche dans laquelle s'immiscer.
À Londres, l'Organisation des Nations Unies, par 42 voix sur 51, a refusé l'admission de l'Espagne de Franco. Franco, en effet, garde encore le pouvoir où le plaça l'appui de l'Allemagne et de l'Italie. Mais depuis un an, Franco chancelle. Pourra-t-il faire alliance avec Don Juan, fils d'Alphonse XIII et héritier du trône, qui vient de s'envoler de Londres pour Lisbonne où il sera plus près? Devra-t-il au contraire céder la place à M. José Giral, qui vient de quitter le Mexique pour Paris? M. Giral, qui est le premier ministre du gouvernement espagnol exilé, s'est logé simplement à la cité universitaire ou dans une chambre d'étudiants, il travaille à la résurrection de la République espagnole.
Est-ce que, Laurence Debray, en 1946, à la fin de la guerre, il y a une possibilité pour que Don Juan retourne sur le trône à ce moment-là, ou est-ce qu'au fond, Franco a tellement bien verrouillé les choses que c'est de toute façon impossible ?
C'est ce qu'il espère, surtout que l'Espagne, à ce moment-là, est un pays dévasté, qui a enchaîné la guerre civile puis la Deuxième Guerre mondiale, qui ne va pas bénéficier du plan Marshall, etc. Donc c'est un pays très affaibli, avec beaucoup de républicains partis en exil. Donc évidemment, il y a un moment là où l'histoire peut encore advenir et il attend la pression de la communauté internationale pour pouvoir revenir en Espagne. Mais finalement, il est très faible. C'est pas comme s'il y avait un parti puissant derrière lui. C'est pas comme si, juste avant la guerre civile, comme vous l'avez rappelé, il y avait une république. Donc, entre ce qu'il espère et ce qu'il souhaite incarner pour l'Espagne et la réalité, finalement, les forces armées sont derrière Franco.
En juillet 1947, Franco fait voter une loi de succession qui fait de lui le chef d'État à vie. Et dans cette loi est stipulé qu'il désignera lui-même son successeur. C'est une loi qui, par ailleurs, définit l'Espagne comme un royaume, ce qui sous-entend la présence d'un roi à la tête de l'Espagne. Ouais. C'est très étrange parce que, du coup, il se proclame lui-même roi, mais pas vraiment.
Il n'a pas le titre.
Il n'a pas le titre, mais il est chef de l'État à vie. Et c'est lui, ouais, qui va désigner le successeur.
Et il accorde des titres nobiliaires, par ailleurs. Donc, il s'attribue toutes les prérogatives. Il s'installe au palais du Pardo, qui était un des palais royaux à Madrid. Enfin, il est tout sauf roi, mais il lui manque juste le titre, si vous voulez.
Alors pourquoi ne pas instaurer lui-même à ce moment-là une dynastie, comme Napoléon l'a fait en France, par exemple? Il aurait pu décider...
Il n'a pas de fils, il a une fille. Et d'ailleurs, ce rapport qu'il va tisser avec Juan Carlos, c'est très mystérieux. Je pense que Franco a beaucoup projeté sur ce jeune garçon qui est né prince. Franco, finalement, n'a pas de fils et finalement respecte la monarchie. Mais c'est très subtil et complexe comme situation.
La ciudad de Vigo vive una impresionante jornada patriótica con motivo de la recepción y despedida de su excelencia el jefe del Estado español en su viaje a Portugal. Gallardetes y banderas nacionales expresan el júbilo de la población gallega, a la que cupo el honor de representar a España en esta manifestación de adhesión al Generalísimo.
Dans cette archive de la télévision espagnole qui date de 1949, on entend que Franco est en visite officielle dans le Portugal de Salazar. Les deux dictateurs de la péninsule ibérique entretiennent des relations complexes. Franco voudrait que Salazar retire son passeport à Don Juan, mais le chef de l'État portugais ne veut pas obtempérer. Il choisit plutôt de faire suivre Don Juan par un espion chargé de garder l'œil sur lui. Mais l'espion est très peu discret et il va finir par prendre ses cafés à la cuisine de la Giralda et par jouer avec les enfants dans le jardin tout en faisant des rapports sur les déplacements et les activités de la famille royale. Laurence Debray, au centre de cet affrontement entre Don Juan et Franco, il y a donc la question de savoir quelle éducation va recevoir le jeune Juan Carlos. Est-ce que ce sera en Espagne ou ailleurs? Quel est l'enjeu de cette question-là?
Soit Juan Carlos est élevé en prince en exil, soit il est élevé en prince espagnol en Espagne. C'est-à-dire que il gagne un peu plus de légitimité sur la couronne. Son grand-père est parti en 31 en exil. C'est quand même une manière de revenir vers la mère patrie. Et c'est un enjeu fondamental. Et je pense que l'avenir de l'Espagne se joue au moment où Don Juan et Franco se rencontrent secrètement.
Sur un bateau.
Sur un bateau qui s'appelait La Sor. Et s'accorde sur le fait que ce jeune prince doit être élevé en Espagne. Tout se joue là, finalement.
Parce qui a intérêt, finalement, le plus à ce que Juan Carlos soit élevé en Espagne? Est-ce qu'au fond, il est sous la coupe de Franco parce qu'il est élevé et éduqué en Espagne? Ou est-ce que ça permet, à l'inverse, à la famille royale de se rapprocher du trône? Qui gagne, au fond, avec ce...
Alors, Juan Carlos dit qu'il était comme une balle de ping-pong entre les deux. Et je crois que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que son père accepte d'envoyer son fils à 10 ans en Espagne, donc loin de tout, sous la coupe d'un dictateur qui, quand même, à l'époque, les monarchistes vont en prison. Mmh. Dès lors qu'ils avouent leur loyauté publiquement à la monarchie. Mais il est accompagné de familles aristocratiques.
Parce qu'en fait, c'est dans un palais.
Donc, c'est dans un palais. Alors, au début, c'est la maison du fils d'un ami. Puis ensuite, c'est un des palais royaux de Saint-Sébastien. Voilà, il y a une dizaine de petits gamins de son âge. Et
de grandes familles d'Espagne.
De grandes familles d'Espagne.
Et qui sont les professeurs qui sont...
Et les professeurs sont désignés par leur père. Mais ils sont en Espagne, c'est comme une espèce de petit havre monarchiste toléré et à la merci quand même de Franco. Et dès que Franco et Don Juan se disputent, eh ben le Juan Carlos est rapatrié à Estoril et puis dès lors que ça va mieux, il revient en Espagne. Mais en fait, les deux sont gagnants. Les deux figures paternelles, entre guillemets, sont gagnantes parce que Don Juan se rapproche, met un pied sur le trône espagnol. À ce moment-là, il s'imagine qu'il est incontournable et dynastiquement, il l'est. Et puis Franco pense à l'avenir de l'Espagne, mise sur ce petit gamin, mais enfin, rien n'est très clair parce que rien n'est explicite. C'est quand même beaucoup de non-dits. Et donc, c'est une situation, je pense, au détriment de Juan Carlos, parce que c'est quand même une enfance sacrifiée, mais au bénéfice de ces deux.
Il faut encore dire qu'à Madrid, un communiqué a été publié à la suite de la rencontre entre le général Franco et le comte de Barcelone.
Ce communiqué précise que le fait que le prince Juan Carlos, fils du prétendant, va poursuivre ses études en Espagne, ne doit pas être interprété comme affectant la transmission normale des obligations et responsabilités dynastiques. Ainsi, le comte de Barcelone a maintenu sa façon de voir. Il ne veut pas du général Franco comme successeur.
Après l'apparition de ses mémoires en novembre 2025, Juan Carlos a donné une interview au journaliste et animateur Stéphane Bern. Il y revient notamment sur ses relations dans sa jeunesse avec le dictateur Franco.
Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez rencontré Franco ?
Oui. Quand je suis venu en Espagne, l'année 47, j'ai été voir Franco. Je suis rentré à son bureau. J'avais 9 ans. Et tout d'un coup, je vois une petite souris. Et je commence à regarder. Alors Franco me dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de regarder ? Moi, j'étais un petit garçon de 9 ans, avec mes petits caleçons courts et tout. Et je lui dis, vous avez une souris dans la jambe. Alors, il a ri, et c'est la première fois que je l'ai vu.
Mais vous n'êtes pas senti à un moment l'objet de rivalité entre votre père, qui avait la légitimité historique, et Franco, qui avait pris le pouvoir. Vous étiez un enjeu entre les deux.
Oui, des fois, j'ai eu l'impression d'être comme une balle de ping-pong. Mais c'était, moi, je l'ai vu normal à ce moment-là. J'étais très jeune.
Oui.
Jusqu'à 14 ans, très bien. Mais à partir de 17 ans, j'étais aux académies militaires. Alors, j'étais très sûr de rester en Espagne, d'étudier, de finir mes études.
Alors, dans cet entretien, Laurence Debré, Juan Carlos choisit de raconter un moment amusant avec la petite souris de la première rencontre avec le caudillo. Est-ce que vous diriez que là, Juan Carlos a choisi de donner une image positive de Franco?
Petite parenthèse, je crois que lors de cette première entrevue, Franco lui offre un fusil aussi. Voilà,
voilà, ce qui dit aussi un petit peu autre chose.
Ouais.
Est-ce qu'il a souhaité donner une image positive, au fond, de sa relation avec Franco? C'est ça qui est difficile à saisir. C'est au fond, est-ce qu'il y a une relation un petit peu comme ça, père-fils presque, entre Franco et Juan Carlos?
C'est pas très clair. Hein. Lui encore se demande. C'était une relation formelle, ça c'est sûr qu'il y avait. Il l'appelait toujours mon général. Il y avait pas de. Il se tutoyait pas. Il y avait pas de relation personnelle très proche. Donc ils avaient des entretiens presque toutes les semaines quand même. Mais il y avait cette espèce de distance entre militaires, hein, qui est aussi.
Ils partaient pas en vacances ensemble, par exemple. C'était pas ce genre de relation.
Juan Carlos l'a retrouvé parfois en Galice, où il faisait un peu de bateau, où il partageait quelques moments de famille, mais très très ponctuel. Il n'y a pas de relation familière, en tout cas, entre eux. Ce qui est certain, c'est que Franco, qui était un animal politique intéressant, qui est quand même resté 40 ans au pouvoir, ou presque, l'a beaucoup guidé. D'ailleurs, c'est lui qui décide, contrairement aux volontés de son père, c'est lui qui décide que Juan Carlos doit faire les trois armées, ce qui était assez rare. En général, on en choisit une.
Il était un mentor pour Juan Carlos.
Je pense que politiquement, Juan Carlos a vu agir et réfléchir Franco. Je pense que sur le contenu idéologique, on va dire, Franco appartenait à une autre génération. Et ça, Juan Carlos a tout de suite compris qu'il pourrait pas gouverner comme lui. Ça a été très clair très vite. Mais il a vu ses instincts politiques mettre en œuvre, ses méthodes. Parce que Franco a quand même toujours joué l'équilibre entre plein de tendances politiques très opposées.
Donc il a appris politiquement.
Donc il a eu cette manœuvre, le côté manœuvre politique de Franco. Après que Franco ait pu projeter des sentiments d'affection, peut-être, mais Franco était aussi proche d'un cousin de Juan Carlos, qui se mariera avec sa petite fille, etc. Donc il avait quand même d'autres princes en vue, et c'était peut-être aussi sa méthode de jouer l'un contre l'autre pour tester un peu les personnalités. Mais Juan Carlos n'a jamais vu Franco comme une figure paternelle. En tout cas, c'est ce qu'il dit aujourd'hui. Après, pour lui, les choses étaient toujours claires que sa loyauté était à l'égard de son père.
Peut-on échapper à son éducation? Plus encore, peut-on échapper aux éducations de deux pères, l'un symbolique et l'autre biologique, et qui en plus se détestent? Pour ce qui est de la rivalité entre Franco et le père de Juan Carlos, nous y reviendrons dans le troisième épisode. Mais il faut d'abord mieux saisir d'où descend ce jeune prince et dans quelles circonstances sa famille s'est retrouvée en exil. C'est ce que nous allons faire maintenant.